Et bonsoir à tous, si vous nous rejoignez. Une heure et demie de discours. Emmanuel Macron était à l'heure devant les parlementaires à Versailles pour fixer le cap du quinquennat cet après-midi. Le ton était grave, mais pas de grandes annonces, Mathilde Chouin.
Non, mais il affirme de nouveau son ambition de réduire le nombre de parlementaires et la fin de l'état d'urgence à l'automne. On décrypte tout ça ensemble.
L'actualité marquée aujourd'hui par cet accident de bus en Allemagne qui transportait des retraités, l'un des plus graves de ces dernières années en Europe. 18 morts. On reviendra aussi sur ces deux interpellations dans le cercle de l'ultra-droite pour des projets terroristes dont l'un visait le président. La vente des médicaments en ligne qui pourrait se libéraliser, l'autorité de la concurrence donne son feu vert et ce sont les consommateurs qui pourraient y gagner. Et puis une journée sport, bien sûr, troisième étape du Tour de France remportée par Peter Sagan, le Slovaque, et en tennis, ça débute pas trop mal pour les Français à Wimbledon.
France Bleu Soir. Mélodie Pépin.
Vous la sentez, cette bonne odeur de fin d'année scolaire, les vacances qui arrivent sous le soleil, c'est vendredi soir, et vous êtes peut-être tenté déjà d'abréger le supplice pour vos enfants. Julien Jean, vous avez mené l'inspection à l'école Garnier-Pagès au Mans. Ils sont nombreux à sécher les cours cette dernière semaine.
Oui, dans la cour, à la récré, sous le préau ou à l'ombre des tilleuls, ça ne se voit pas vraiment, mais sur les 211 écoliers, près de 10% manquent à l'appel, et beaucoup ont déjà la tête ailleurs, confirme Cyrine en CE1.
Comme c'est bientôt terminé, on pense qu'on est en vacances.
Et il est temps, ajoute-t-elle.
Oui, je suis fatiguée de mon année. Parce que c'est long et...
Les gars,
on a beaucoup travaillé.
D'ailleurs, c'est une semaine à risque avec de multiples bobos juste avant les vacances, constate chaque année Patricia Demas, la directrice.
Les enfants se relâchent un petit peu, on voit bien. Puis il y a la fatigue de fin d'année qui est présente aussi. Donc nous, enseignants, on fait en sorte de prendre en compte tous ces éléments.
Alors le matin, l'ambiance reste studieuse.
3 = 498.
Parfait, c'est très bien.
Durant quelques heures, les élèves peuvent aussi découvrir leur future classe. Les CP vont ainsi en CE1, les CE1 en CE2, etc. Mais l'après-midi, ce sont des activités plus ludiques.
Bah moi, j'aime mieux la dernière semaine parce qu'on fait des jeux. Et... on travaille moins, on a moins de leçons.
Pour se mettre tranquillement dans le rythme des vacances.
Julien Jean, de retour sur les bancs de l'école au Mans pour France Bleu. On en vient maintenant à cet accident de bus en Allemagne, l'un des plus graves de ces dernières années en Europe. 18 personnes sont mortes, piégées par les flammes quand le bus a pris feu après avoir percuté un camion. Et le bilan pourrait encore s'alourdir, Cyril Sauvageau.
L'épave carbonisée de l'autocar témoigne de la violence de l'accident. Il était 7h ce matin quand la collision a eu lieu sur une portion très fréquentée de l'autoroute A9 en Franconie, au nord-est de la Bavière. Le car de tourisme, avec 46 passagers et 2 conducteurs à bord, percute par l'arrière un semi-remorque qui roule trop lentement devant lui. Le bus prend feu immédiatement, piégeant de nombreux passagers. Parmi les survivants secourus sur place, plusieurs se trouvent encore dans un état critique. Les victimes venaient de la région de Dresde, dans la Saxe, un groupe de touristes retraités en route vers le lac de Garde en Italie. À la mi-journée, le ministre des Transports Alexander Dobrindt s'est rendu sur place et Angela Merkel a adressé ses condoléances. La chancelière qui se dit bouleversée par cet accident, le plus meurtrier survenu en Allemagne depuis 2008.
Cyril Sauvageau pour France Bleu. L'actualité en France, c'est bien sûr le discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires à Versailles. Moment très solennel. Après une minute de silence en hommage à Simone Veil, le président s'est donc adressé aux 900 parlementaires durant une heure et demie. Discours plutôt long, alors que faut-il en retenir, Mathilde Chouin?
D'abord ce message, il faut réformer les institutions. Le ton très grave, très posé. Emmanuel Macron se donne un an pour le faire. Le principal chantier annoncé pendant la campagne est confirmé. Il demande à sa garde des Sceaux et au président des deux chambres des propositions concrètes de réforme. Il demande aussi d'introduire une dose de proportionnel pour que toutes les sensibilités y soient représentées. Légiférer moins de lois. Le président de la République propose d'évaluer les textes importants 2 ans après leur mise en application.
Évaluer les anciennes, quitte à en abroger. Il y a aussi cette annonce qui doit inquiéter pas mal de parlementaires. Mathilde.
Emmanuel Macron propose de supprimer d'un tiers leurs effectifs, soit 192 députés et 116 sénateurs en moins. Le chef de l'État veut que ce soit parachevé d'ici un an. Et le martèle, il va aller vite, très vite. Vous validez ou pas, les électeurs décideront.
Ces réformes seront soumises à votre vote. Mais si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum. Car il s'agit ici de rien moins que de retisser entre les Français et la République le rapport qui s'est dissous dans l'exercice mécanique du pouvoir.
Autre annonce majeure, la suppression de la Cour de justice de la République.
L'institution qui juge les ministres pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, une juridiction d'exception. Selon lui, les ministres doivent devenir comptables des actes accomplis pendant leur mandat. Emmanuel Macron bien décidé à venir tous les ans devant le Congrès pour rendre compte de son action. Le président annonce aussi la fin de l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats du 13 novembre. Il sera levé à l'automne.
Une phrase risque aussi de bien faire réagir Mathilde quand le président parle des assistés.
Tout en précisant qu'il veut protéger les plus faibles, mais le mot est lâché.
Protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en mineurs incapables, en assistés permanents de l'État, de ses mécanismes de vérification et de contrôle. C'est de leur redonner, et à eux seuls, les moyens de peser efficacement sur leur destin. Tout sera fait pour rendre aux Français cette autonomie qu'on leur a disputée puis confisquée. Redonner sa place à l'intelligence française.
Ce soutien doit passer par la réforme du Code du travail, discutée dans les prochains jours au Parlement.
Alors du côté de l'opposition, ça réagit comment après ce discours ?
Flou lyrique pour Marine Le Pen, bonapartisme pour Jean-Luc Mélenchon, alors que Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, promet d'être coopératif.
Ne nous demandez pas d'abdiquer notre liberté, d'abdiquer nos convictions, refuser cette tentation hégémonique qui ne serait pas bonne ni pour votre gouvernement, ni d'ailleurs pour votre majorité. Ensemble, nous pouvons travailler en vous rappelant que la seule loi qui compte, la grande loi de la cité, la grande loi de la République, c'est celle à laquelle on parvient grâce au débat, pas à la pensée unique.
Voilà ce que l'on pouvait dire du long discours du président devant les parlementaires cet après-midi. Merci Mathilde Choin. On se donne rendez-vous donc dans un an, puisqu'il a promis de revenir tous les ans devant le Congrès pour rendre compte. En attendant, demain, place au Premier ministre devant les députés. Deux mises en examen dans le cercle de l'ultra-droite. Deux hommes qui nourrissaient des projets terroristes ont été interpellés. L'un envisageait même de s'attaquer au président de la République le 14 juillet. Deux interpellations, l'une en région parisienne, l'autre dans les Bouches-du-Rhône, mais pas de lien direct entre les deux hommes, Stéphane Père.
Argenteuil, Tarascon, deux interpellations antiterroristes et préventives dans les milieux ultranationalistes. Mercredi dernier, c'est d'abord cet homme de 23 ans qui est interpellé à son domicile dans le Val d'Oise. Depuis plusieurs jours sur Internet, via une plateforme de jeux vidéo en ligne, il fait état de sa haine contre toutes les minorités, mais il évoque surtout un projet d'attentat contre Emmanuel Macron lors du défilé du 14 juillet. Son but, trouver un fusil d'assaut, une Kalachnikov pour passer à l'acte. Selon plusieurs sources, le projet de cet homme n'était pas abouti, mais son ancrage dans l'ultra-droite et une précédente condamnation pour apologie du terrorisme ont décidé les policiers à intervenir. Dans les Bouches-du-Rhône, au même moment, c'est un homme de 21 ans qui a été interpellé, mis en examen et écroué pour apologie du terrorisme et entreprise individuelle terroriste. Fiché S pour son appartenance à l'ultra-droite, il menaçait lui aussi sur Internet de passer à l'acte sur un mode terroriste et pour des motifs racistes contre des migrants ou des musulmans. Déjà condamné par le passé pour des violences, il animait sur les réseaux sociaux une page Facebook sur laquelle il glorifiait Anders Breivik, le terroriste norvégien d'extrême droite.
L'Italie est à bout. L'Italie ne peut plus faire face seule à l'arrivée des migrants, des milliers chaque semaine. Étape du point sur la table, si le pays n'a pas d'aide, Rome va fermer ses ports. Message reçu hier soir lors d'un dîner avec Paris et Berlin. Mathilde Imberti, plusieurs mesures ont été proposées.
Les trois pays, France, Allemagne et Italie, s'entendent sur plusieurs points d'après le communiqué du ministère de l'Intérieur français ce matin. Ils seront discutés, ces points, jeudi lors d'une réunion des 28 en Estonie. Les ministres des trois pays veulent travailler à un code de conduite pour les ONG qui secourent les migrants en mer et renforcer le soutien aux gardes-côtes libyens. L'Italie aurait obtenu également une accélération du plan de relocalisation des migrants qui est un échec aujourd'hui. 160 000 personnes arrivées en Grèce et en Italie devaient être transférées dans le reste de l'Union. Ils ne sont que 6 000 à l'avoir été. L'Italie hausse le ton depuis mercredi dernier et menace de fermer ses ports à l'arrivée de migrants si elle n'est pas entendue sur la crise migratoire. Marco Minniti, le ministre de l'Intérieur italien.
Nous avons des bateaux venus de tous les pays européens. Et pourtant, les seuls ports où tous ces navires viennent débarquer les personnes qu'ils ont sauvées, eh bien, c'est uniquement les ports italiens. Le temps des belles paroles est révolu.
La menace italienne n'a pas eu de suite. Pour l'instant, l'Italie accueille des centaines, voire des milliers de migrants chaque jour. Depuis le début de l'année, 84 000 personnes ont atteint le pays par voie maritime. Une augmentation de 20% par rapport à la même période l'an dernier.
Mathilde Imberti pour France Bleu. L'ONU s'en mêle aussi. Le haut commissariat aux réfugiés réclame que le fardeau soit partagé. La maternité de Decazeville dans l'Aveyron va fermer. Ce n'est pas une affaire de coût, mais un drame qui a conduit à cette décision de l'Agence régionale de santé. Un accident il y a 9 mois qui a coûté la vie à une mère et son bébé, la population a décidé de saisir la ministre de la Santé. L'autorité de la concurrence favorable à la vente en ligne de médicaments sur Internet. Soyons précis, les médicaments sans ordonnance. Une brèche pour libéraliser le marché qui fait grincer des dents chez les pharmaciens, mais il y a aussi des gagnants, Célia Kiré.
Le but est d'encourager la baisse des prix des médicaments vendus sans ordonnance. L'autorité de la concurrence va lancer dès la rentrée une grande réflexion pour que la vente des médicaments soit plus libre. Pour Isabelle De Silva, la présidente de cette autorité, il faut notamment encourager la vente sur Internet.
Nous trouvons que depuis longtemps, cette vente en ligne est très encadrée, avec des restrictions qui ne sont pas toujours justifiées, et ça limite beaucoup le développement de cette vente en ligne qui reste tout à fait embryonnaire en France. Par exemple, il faudrait desserrer les contraintes pour que les sites de vente en ligne de médicaments puissent réellement se développer. Aujourd'hui, c'est un secteur qui reste très peu développé, alors que nous pensons que sur un certain nombre de médicaments vendus sans ordonnance, on pourrait aller vers plus de souplesse. De même, on pourra regarder à nouveau le sujet de la distribution des médicaments en dehors des officines ou avec plus de souplesse par rapport à l'existant, puisque c'est un sujet que nous avons de longue date porté.
L'autorité de la concurrence est notamment favorable à la vente de certains médicaments en grande surface. Elle pourrait enfin encourager les médecins à transférer certains de leurs actes à des professions paramédicales. Encore une fois, précise-t-elle, au bénéfice des patients, mais les médecins n'y sont pas du tout favorables.
Célia Kiré pour France Bleu. Sur Internet, il est toujours interdit d'acheter des cigarettes et chez les buralistes, le paquet lui pourrait atteindre 10 euros bientôt. C'est en tout cas ce que propose la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, veut une hausse rapide et forte. Ça y est, les coureurs du Tour de France sont arrivés en France. À Longwy, en Meurthe-et-Moselle, troisième étape remportée par le Slovaque Peter Sagan. Vraiment le plus fort sur ce type d'arrivée, Gilles Damingue.
Ah oui, c'était le grand favori. Il n'a pas fait mentir les pronostiqueurs car l'arrivée à Longwy était jugée à la citadelle au sommet de la côte des religieuses. Une difficulté d'1,6 km et ça, Sagan adore. Peter Sagan, 27 ans, s'est imposé pour la 8e fois sur le Tour. La 4e fois dans cette configuration après Serein et Boulogne-sur-Mer en 2012, Cherbourg l'an dernier et donc Longwy tout à l'heure. Pourtant, le double champion du monde a déchaussé à moins de 300 mètres de la ligne. Mais le fantasque slovaque ne s'est pas démuni. Peter Sagan est un niveau au-dessus des autres. Le quintuple maillot vert du Tour a devancé l'Australien Michael Matthews, l'Irlandais Dan Martin et le champion olympique belge Greg Van Avermaet. Premier français Arnaud Démare, le champion de France, a pris la 6e place, juste derrière les meilleurs punchers du monde.
Gilles Damingue pour France Bleu. Et notez que Pierre Latour s'empare, lui, du maillot blanc de meilleur jeune, meilleur espoir français, premier français au général en 6e position. Les sprinteurs de nouveau attendus demain pour la 4e étape entre Mondorf, les Bains et Vittel et toujours sous le soleil. À Wimbledon, en revanche, la pluie s'est invitée aujourd'hui, perturbant un peu le tournoi de tennis. Mais les Français ont pu jouer et c'est une première journée plutôt correcte pour nos Bleus, ce qui pourrait surprendre presque Jean-Laurent Bernard.
Oui, puisqu'il y a un homme et une femme du côté de la France qui sont sortis, qui ont été battus dès ce premier tour. Bento pour les hommes et Cornet pour les femmes. Tous les autres sont passés. Herbert, Père. Alors Herbert, il faut quand même noter qu'il a battu Kyrgios, le fantasque australien, sur abandon. Donc voilà, Tsonga est passé à peu près sans problème. Et Lucas Pouille vient à l'instant de remporter son match, donc ça va. Et du côté des vedettes, on dira que Nadal, Murray sont passés presque les mains dans les poches, ce qui est pratique au tennis. Et Nishikori, Venus Williams ou Simona Halep sont passés également sans difficulté.
Et évidemment, celui que vous attendez impatiemment, Jean-Laurent Bernard, et qu'on attend aussi, c'est Roger Federer, le prince de Wimbledon, qui fait son entrée demain.
Voilà, à la recherche d'un 8e titre, ce qui le ferait définitivement entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, Federer est ses 35 ans et numéro 5 mondial. Demain, il va affronter l'Ukrainien Dolgopolov, qui est 84e. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais on sait toujours que les premiers matchs, le premier tour, est souvent dangereux, parce qu'en face, ils ont des joueurs moins bien classés, nettement moins forts, qui tente le tout pour le tout et qui parfois y arrive.
Donc attention Roger, tu te relâches pas s'il te plaît. Côté coulisses et tradition, les Anglais sont champions et même hors concours. Alors vous allez nous faire saliver. Parlons d'abord de la visite de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, épouse du prince William.
Oui, Kate Middleton en fait est aujourd'hui devenue la patronne de Wimbledon parce que vous savez qu'il y a une loge royale devant laquelle d'ailleurs les joueurs et joueuses devaient s'incliner jusqu'en 2003 à peu près. Aujourd'hui c'est terminé, mais ça n'empêche qu'il y a toujours la représentation représentation royale. Et c'est Kate Middleton qui succède en quelque sorte à la reine Elizabeth, qui ne vient plus à Wimbledon déjà depuis un certain temps. Et donc, elle était là aujourd'hui avec revue d'effectifs. On vient se présenter à la duchesse de Cambridge. C'est très, très organisé, très impressionnant. Et voilà, et ça a été fait aujourd'hui.
Merci Jean-Laurent Bernard pour ce tour de Wimbledon. On vous retrouve demain.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.